Les exploités, les dominés, les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les maltenus. Seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce. De la rationalité du capital, la globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité. Alors nous, on a décidé, ni fatale, pas du tout, non la considérons pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Moi, je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions. Et vous retirez sur le côté, gentiment. Monsieur, comme ça, il n'y aura pas de violence.
Monsieur, en tout cas, pas de inconvénient. J'attends les ordres.
Allez, bonsoir. C'est Vérégor, chaque semaine, sur l'écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et Radio Primitive sur Reims. Vérégor, une parole anarchiste communiste. Allez, bonsoir. Eh bien, ce soir, exceptionnellement, on reçoit des gens de Reims qui font quelque chose. Eh oui, il y a longtemps qu'il s'est passé quelque chose sur Reims qui ne sorte pas de l'ordinaire, c'est-à-dire qui ne sorte pas de l'institutionnel, puisque on va vous parler de squat, de centre social autogéré. Eh oui, ça existe sur Reims. Ça n'existe pas que dans la région parisienne, dans la région lyonnaise, Grenoble, Nantes, ça existe aussi sur Reims. Alors, on reçoit donc Adrien et Antoine. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Alors, vous allez nous dire un petit peu comment c'est né, le projet, comment ça s'est construit.
Bah, en fait, on était une paire de copains et au début, ça vient beaucoup d'un besoin par rapport à la musique. Ou à Reims, il n'y a absolument aucune salle qui est disponible pour faire quelque chose en dehors des institutions, quelque chose d'ordre amateur et tout. Et donc, on s'est penché de plus en plus vers ça, puis on a trouvé une grande maison et on s'est dit qu'avec toute la place qu'on avait, on pouvait aussi développer tout un panel de choses comme des ateliers qui peuvent développer le DIY, qui est le truc de faire soi-même. Donc dans cette maison, on a plein de places, on a installé un atelier de sérigraphie, il y a des gens qui font de la radio eux-mêmes, donc c'est vraiment juste un besoin de faire les choses en dehors des institutions. Et on a vu dans cette maison abandonnée par Reims Métropole. Ouais, désolé. Donc il y avait une grande maison abandonnée par la mairie de Reims, par la communauté d'agglomération de Reims. Et il n'y a aucun projet dessus avant 2020, qui est un projet à échelle européenne de faire une super piste cyclable à travers l'Europe, et ça passerait par Reims.
Ah ouais, et puis il y avait une question que je voulais te poser, ouais. Parce que il me semble que ce n'est pas votre première expérience, parce que vous aviez déjà fait un essai avant.
Ouais, l'année dernière, en fait, on avait pris une maison qui avait l'air abandonnée, et c'était un propriétaire privé, et au bout de deux mois d'expérience, on s'est fait, le propriétaire, il y avait des ouvriers qui travaillaient dans la maison, qui se sont donc rendus compte que nous on l'a squatté. Et il l'avait dit au propriétaire, et le propriétaire a envoyé ses ouvriers avec des machettes et des masses pour nous virer un jour. Donc on était 5 à la maison, ils étaient 20 avec des machettes. Donc on est parti. Donc pour celle-là, on s'est dit qu'on allait en prendre une qui appartenait à la mairie, que ça aurait plus de poids sur ce que nous on réclame, et puis que ça éviterait ce genre de désagrément, parce que la police nationale a plus ou moins maintenu un protocole qui évite les machettes.
Pour l'instant.
Ouais. On ne sait pas ce qui pourrait se passer.
Alors bon, c'était donc c'est un truc qui appartient donc à Reims Métropole.
Mm-hmm.
Reims Métropole, alors comment ils ont réagi?
Alors au bout d'un mois, on a eu la visite de la police qui est passée une première fois. Ils ont toqué, ils ont vu qu'il y avait des gens, ils ont vu qu'on était installés parce que comme cette maison, elle répond, on a décidé de la faire répondre aussi à des problèmes de logement de certains copains. Il y a des gens qui habitent dedans, donc il y avait une gazinière, il y avait des lits installés et tout. Donc là, ils ont déclenché une procédure. Donc, avant, deux jours après, il y a la police qui est revenue, qui a fracturé la porte de derrière pour se rendre compte qu'on était encore installé et qu'il n'y avait eu aucune communication. Et ils sont partis en s'excusant, c'était assez ridicule. Et une semaine après le premier passage de la police, il y a un huissier qui est venu, qui a constaté, et donc Reims Métropole ont porté plainte pour qu'on s'en aille de cette
expulsé,
maison,
qu'on soit expulsé. Et alors, comment que ça s'est passé?
Il y a eu un premier procès. Enfin, avant le procès, en fait, il y a eu une rencontre avec avec certains élus de la mairie, où on nous a dit qu'il n'y avait pas de problème avec la démarche et tout, que c'était quelque chose de formel le problème, qu'il faudrait qu'on se monte en association, qu'on réclame pour avoir un bail précaire pour utiliser cette maison-là, mais que c'était juste une histoire d'assurance, qu'eux, ils avaient besoin de porter plainte pour pouvoir se retourner au cas où. Et donc, il y a eu un premier procès qui a été reporté, un deuxième procès où on s'est rendu compte que l'avocate de Reims Métropole, elle attaque sur le projet, en fait, elle s'est servie des différentes choses sur lesquelles on a communiqué pour dire qu'il se passait des choses à la maison. Elle s'est servie d'un article qui était paru dans l'hebdo du vendredi où on a dit qu'on a choisi la maison pour pouvoir y développer des activités. Et donc elle, face au juge, elle a justifié la demande d'expulsion sans délai par le fait qu'on était des gens qui avaient intentionnellement voulu passer outre les lois et plein de grands mots comme ça pour nous faire expulser le plus vite possible.
Et ça n'a pas marché.
Le juge rend son référé le 6 avril. On verra bien que le juge décide, quoi. Mais pour l'instant, on y est encore et on espère y rester un petit peu de temps parce qu'on a vraiment, de la part des élus, un espèce de discours de façade qui nous dit que ce qu'on fait, c'est bien, qu'il y a juste un problème sur la forme et devant le tribunal, on se rend compte que pour Reims Métropole, c'est autre chose. Alors, bien sûr, on nous dit que la ville et Reims Métropole, c'est pas la même chose, mais...
Oui, enfin, c'est quand même la maire de Reims qui est la présidente.
La présidente de Reims Métropole.
Je crois que...
Oui, ça, ils auront du mal à... Enfin, je sais pas comment ils peuvent le justifier longtemps, mais donc, on est en procès. Pour l'instant, on n'a pas de harcèlement policier ou quoi que ce soit, mais on n'est toujours pas sûr qu'on puisse rester là, alors que c'est un petit peu dommage par rapport à certaines choses qu'on développe dans la maison, comme la maison qu'on a pris, elle a un énorme jardin. Il y a des gens qui ont commencé à jardiner. Adrien, qui est là depuis le début, qui n'a pas encore parlé, il jardine beaucoup. Alors peut-être il peut en parler mieux que moi du club jardin qui s'est installé et qui font plein de trucs. Non. Parce que donc on a un très grand jardin et donc il y a des gens qui se sont dit que en ville on n'avait pas de jardin et que eux ça les intéressait de faire du jardin. On a commencé à planter plein de trucs, à retourner la terre et on sait même pas si dans deux semaines c'est pas fini, quoi, parce qu'il y a aucun, on arrive à rien savoir.
Alors, dans ce lieu, ça s'appelle Centre Social Autogéré.
Ouais.
Alors, quel est le contenu de ce Centre Social Autogéré?
Le Centre Social, c'était vraiment par rapport au terme, de reprendre le terme institutionnel pour dire qu'on organisait des ateliers et que ici la vie, elle s'organisait. Et Autogéré, c'est vraiment sur le mode de fonctionnement qu'on adopte à l'écluse. Il y a des réunions tous les jeudis soirs où n'importe qui peut venir pour proposer... Pour proposer un atelier ou quoi que ce soit, et donc quand on a envie de faire quelque chose et que dans cette maison il y a la possibilité de le faire, et c'est souvent le cas vu que cette maison est très grande et qu'on a genre des pièces dans la cave où on peut faire du bruit toute la nuit, donc on a des groupes qui viennent répéter. Donc les groupes, la plupart du temps, ils viennent le jeudi, ils en parlent à tous les gens à qui ils ont envie d'en parler, et tous les gens qui gravitent autour de l'écluse, ils décident ensemble, sans que toutes les décisions pour l'instant elles se prennent au consensus. Ouais. Il n'y a pas de vote et tout, et pour nous, le côté autogéré, il vient de là, il vient du fait que quand on a un projet, on ne doit pas en référer à certaines personnes et rentrer dans une institutionnalisation du truc qui, au final, apporte pas grand-chose, quoi.
Ouais, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on soit bien clair, ce soir, tu parles en ton nom, tu parles pas au nom de l'écluse.
Oui, je parle en mon nom parce que rien de ce que je dis n'est l'avis de tous les gens qui gravitent.
Tu peux donner un ordre de grandeur des gens qui gravitent autour de l'écluse aujourd'hui?
Bah alors, pour l'instant, l'écluse, on a un peu du mal à se défaire sur le côté, c'est la fête le week-end. Donc l'écluse, on peut dire qu'il y a entre 20 et 30 personnes qui tournent, qui viennent participer aux ateliers dans la semaine et qui viennent régulièrement aux réunions. Et le week-end, selon les événements qu'on organise, vu qu'il y a, il y a pas mal de concerts, vu qu'on a une cave qui est adaptée à ça, il y a une centaine de personnes, sans compter, vu qu'on est au bord du canal, tous les badauds qui s'arrêtent pour nous demander, qui s'intéressent et qui rentrent juste pour se demander comment ça se fait que cette maison, elle reprend vie après 6 ans d'abandon.
Après 6 ans d'abandon. Ah, justement, par rapport à l'environnement, par rapport aux voisins, comment que ça se passe?
Bah, avec les voisins, pour l'instant, ça se passe super bien. On doit avouer qu'on a eu un coup de chance parce qu'on est dans un quartier où les gens ont du mal avec la mairie parce que c'est un quartier qui est à terme destiné à être rasé pour ce projet de piste cyclable dont je parlais au début. Donc la mairie a préempté tout le quartier, c'est pour ça que notre maison a été rachetée par la mairie. Et donc les gens, ils ont un peu l'impression que la mairie, elle essaye de les mettre dehors. Il se passe plus rien dans leur quartier, il y a rien du tout comme activité de proposer. La maison de quartier Verri, elle est complètement délaissée. Et donc ils voient d'un plutôt bon œil qu'il y a des gens qui viennent. On s'est présenté au début, il y a des voisins qui nous ont avoué être méfiants parce que quand on arrive et qu'on dit bonjour, on squatte la maison d'à côté, mais vous inquiétez pas, on est gentil, il y a des gens qui s'inquiètent un petit peu. Puis après, ils ont vu qu'on était vraiment là pour nettoyer le jardin, que on organisait des choses, mais qu'on s'était arrangé, par exemple, pour faire rentrer les gens sur la maison, sur le côté où ça dérange personne, pour quand il y a du bruit en soirée et tout. Enfin, à chaque fois qu'il y a eu un problème, on a réussi à le gérer par la discussion encore avec les voisins. Et donc, on est allé par exemple au conseil de quartier et le squat de l'entrée de la rue de la Cerisée, il est mieux accueilli que le chapiteau qui a été installé par la mairie à 500 mètres. Quoi.
Ouais. Est-ce que tu as un peu, parce que je pense que vous avez eu des émissaires et même des responsables de la mairie qui sont venus vous voir, en particulier des adjoints.
Oui, ah oui, bah, nous la personne qu'on a rencontrée c'est Thierry Vipleur. Après Thierry Vipleur, il est passé une fois à la maison pendant qu'il faisait du vélo, en fait il faisait du vélo le long du canal, il est passé à la maison, il nous a dit qu'il reviendrait avec le service technique pour voir, parce que avant d'envisager un bail, il fallait qu'on se constitue en association, ce qu'on peut plus ou moins comprendre pour des raisons d'assurance, mais qu'il fallait aussi vérifier à ce que la maison elle soit aux normes. Alors on n'est pas du tout opposé à ce qu'un jour la maison elle soit aux normes, nous on dit pas que on a envie de faire les choses en dehors des normes, mais on aimerait bien que... Enfin, on sait que la maison elle est pas aux normes et eux ils nous ressortent ça comme pour se servir encore une fois des normes, comme d'une excuse pour empêcher qu'il se passe des choses, parce que nous, enfin, on est plusieurs à avoir une association, ça fait 5 ans qu'on réclamait une salle où avec un mode de fonctionnement un peu comme ça où n'importe qui peut organiser des choses à l'échelle amateur sans avoir besoin de gros moyens, et ça fait 5 ans que c'était le collectif Karma que ça s'appelait, que les discussions avec la mairie elles avancent à rien du tout. Et
oui. Justement, si tu mets le micro, Camille, je vais peut-être pouvoir parler. Ah.
Quand tu veux. Ouais, merci. Justement, tu parlais de Vipleur, qui est un politique, un fin politique de la mairie. Hein, oui. Mais il n'est pas le seul. Hein, y a d'autres personnes qui sont venues faire de la réclame pour leur... formation, en se présentant comme pseudo-anarchiste ou ancien anarchiste, et qui prétendait vous donner des recettes miracles. Alors, juste une chose par rapport au conseil de quartier, que là, juste quand je viens d'arriver, je vous ai entendu parler de ça. Il me semble que vous avez eu quand même pas mal de bâtons dans les roues pour participer à ce conseil de quartier.
Bah, c'est-à-dire que On nous a sorti comme excuse. En fait, on a voulu participer au conseil de quartier et comme notre installation dans la maison, ça correspond à peu près au mois de décembre. Les conseils de quartier redémarrent au mois de janvier, donc on nous a dit qu'on pouvait pas participer au conseil de quartier tout de suite parce que les conseils de quartier d'installation, c'était dans un quartier comme ça, il y avait des nouveaux élus de la part. Enfin, on nous a dit que en fait la démocratie directe ça marchait pas. Et que donc il fallait laisser aux gens le temps de se roder et qu'on pouvait pas venir et présenter aux gens les choses comme ça, alors que nous on avait vraiment juste envie de faire ça, de dire aux voisins on est installé, mais voilà, si vous voulez passer vous verrez comment ça se passe. On nous a dit que c'était pas possible, donc le premier conseil de quartier qu'on a pu faire c'était celui de début mars, alors qu'on s'est installé au mois de décembre et que on a toujours eu cette volonté de pas vraiment de garder nos distances avec les institutions, mais le conseil de quartier c'était la seule chose qu'on avait considérait potentiellement représentatif de quelque chose, vu que c'était censé représenter le quartier où on habite. Et c'est vrai que c'est la seule chose à laquelle on n'a pas pu aller. Enfin, on a dû attendre 3 mois avant d'avoir le droit de rentrer, quoi.
Oui, parce que, en fait, moi, je pense que si je dis que ces gens-là qui viennent au nom de la mairie donner les bons conseils, hein, en fait, les conseils qui vont vous mettre la main de les tentacules de la pieuvre dessus, c'est pour vous embobiner, pour essayer de vous dire, eh ben, on va vous envoyer une commission de sécurité. Ils le disent pas comme ça directement, mais en fait, c'est ce que ça veut dire en filigrane. Et pour paralyser le projet, quoi, pour paralyser votre projet. Donc, enfin, votre projet, c'est pas qu'un projet, puisque ça fonctionne depuis plusieurs mois maintenant et que, vraisemblablement, ça gêne un certain nombre de, soit d'élus qui ont des projets personnels sur ce site, hein. Il y a les projets officiels avec la fameuse zone verte, vous en avez peut-être déjà parlé, hein, mais ça c'est un bon prétexte à expulser tout le monde, à faire des zones libérées au niveau économique, hein, pour faire tout et n'importe quoi. Et puis il y a les projets de certains élus qui veulent faire un centre équestre pour poney ou autre chose comme ça, quoi.
Bah, c'est vrai que quand au tout début des discussions avec des gens de la mairie, on nous a dit qu'il fallait voir qu'on pourrait par exemple installer des toilettes sèches le long du canal pour les coureurs ou prendre des aines dans le jardin. Mais ce que ces gens-là ils ont pas compris, c'est que c'est pas comme ça qu'on fonctionne. On nous a dit qu'on pourrait rendre service à Reims Métropole comme ça et on n'a pas envie de faire les choses pour rendre service à qui que ce soit. On a envie que les gens qui ont envie de faire des choses, ils aient un espace où ils puissent venir et dire je l'ai fait. Et les gens qui nous ont proposé ça, si eux ils ont envie de ramener un aine et de se balader en aine dans le jardin, clairement ils ont le droit de le faire. Mais nous on va pas organiser des balades en aine pour aider Reims Métropole. C'est à mille lieues du fonctionnement qu'on essaye d'avoir, qui est de dire que tout le monde peut faire ce qu'il a envie. On n'est pas là pour proposer des solutions toutes cuites aux gens et rendre service aux institutions. C'est vraiment quelque chose qui est basé sur la rencontre et le personnel avec les gens.
Évidemment, puis je pense que les différents groupes, les différentes individualités qui sont rencontrées, retrouvées dans ce projet, dans cette action concrète, ont chacune une multitude de mises en œuvre. Ça, vous l'avez déjà évoqué sans doute, les différentes...
C'est vrai que... Enfin, j'ai pas envie de parler d'interdisciplinarité, mais comme il y a vraiment plein de gens qui se complètent et qui se rencontrent sur plein de trucs, enfin, que ce soit au jardin et tout, on développe des espèces de réflexes. C'est vrai que si on doit dire les choses, le jardin, il est plus, les gens qui sont ici, dans ce squat, ils développent un truc écologique, mais on n'a pas envie de s'étiqueter avec Europe Écologie Les Verts, quoi. On n'a aucune acquaintance par rapport à ça. Et, nous, c'est vraiment d'arriver à faire les choses. Et sans aller se coller l'étiquette d'un parti ou quoi que ce soit.
Peut-être faire une pause musicale avant de reprendre.
Ouais.
Alors je crois que la pause musicale n'est pas anodine.
Je crois que j'ai ramené Térébenthine. C'est un groupe qui vient de Châlons. Donc je sais pas le titre de la chanson parce que pendant les lives, les gens disent pas les chansons. Donc à l'écluse, comme on organise beaucoup de concerts, la plupart des concerts, on les enregistre. Et donc on vous a ramené un extrait d'un concert de Térébenthine dans la cave de l'écluse.
Ça veut bien marcher.
Et bien on continue, on reçoit donc deux personnes, Antoine et Adrien de l'Écluse, le centre social autogéré qui est un squat actuellement sur Reims et qui existe quand même depuis décembre. Alors je crois qu'on n'a pas abordé le problème de vos rapports avec les médias, qui est toujours un problème épineux de tout ce qui peut être social au sens large du terme.
Bah ouais, donc on s'est posé le problème des médias parce que quand on est en squat, on a un peu peur de l'image que les médias peuvent donner de nous, donc au début on s'est dit que les médias qui voudraient parler de nous, juste on essaierait de les rencontrer. Il y en a certains qui ont accepté la rencontre et qui ont fait des articles sur nous. Après ils ont dit pour le coup ils ont dit des choses bien, mais ça on s'en fiche un peu. Mais il y a des médias donc, comme l'Union ou ce genre de gens,
construction fait... locale pour ceux qui ne connaissent pas.
C'est vrai qu'il y a pas que des gens de Reims qui écoutent. Ces gens, ils ont refusé de nous rencontrer, ils sont venus juste au procès, ils ont parlé simplement aux personnes DRG qui étaient présentes dans la salle, ils en ont tiré un article qui est, c'est pas le pire qu'ils aient écrit, mais qui est loin d'être génial, où ils utilisent les mots de façon ridicule. Enfin, c'est notre avocate, elle tente, et celle de la ville affirme, enfin, c'est plein de choses comme ça. Il y a un photographe qui a pris une photo qui est pas de la maison, en fait, il a pris une photo en se mettant 15 mètres sur le côté, pour pouvoir avoir la photo d'un pochoir qui dégrade du coup un des piliers du jardin d'à côté de la maison.
Ah oui, un graphe, oui, non, voilà. Ça, la donc, criminalisation est toujours
ce
là.
Ce qu'on appelle un journal flic, hein, ouais. Un photographe flicard. Hein.
Donc, voilà, et puis il y a la télé qui a demandé à nous voir, et puis on leur a dit qu'il fallait qu'ils viennent, puis ils sont jamais venus. Donc pour l'instant, on n'a pas trop de problèmes. Le seul problème, celui qu'on abordait là pendant la musique, c'est que dans les médias, on essaye pour l'instant de nous réduire à un squat artistique, alors que il y a une volonté d'être autre chose que juste un lieu culturel avec les copains pendant les réunions, qu'on a écrit vu qu'on est à la radio, je vais faire de la pub. Vu qu'on a écrit un petit manifeste qui est disponible sur internet et sur un site qui s'appelle www.écluse-reims.org. Et donc c'est un petit texte d'une page qui explique pourquoi on a fait ça et pourquoi on pense que c'est important de le faire comme ça. Et dedans, donc on en est arrivé à la conclusion que nous on avait trois dimensions qui étaient le culturel, le social et le politique, parce que tout ça, enfin, ce squat et ce qui s'y passe, ça pose des questions dans ces trois registres, et que tout ça c'était indissociable et qu'on refusait nous d'être assimilé à juste un énième lieu culturel, quoi. On n'est pas juste une alternative à ce qu'ils proposent, on est vraiment autre chose. Enfin...
Ouais. Ouais. Alors. Est-ce que vous pouvez expliquer comment vous percevez le fait qu'il y a pas mal de gens qui viennent, qui sont emballés par ce projet et qui viennent régulièrement, je pense précisément à cet artiste, un musicien, pianiste, je crois, qui avait été très sollicité par la métropole. Bah, et en fait, il s'était retrouvé dans une immense salle et il avait pas de facilité d'agir. Et en fait, il a purement et simplement laissé tomber ce site. Et il est venu plusieurs fois jouer à l'Écluse, quoi.
Ouais.
Bah, alors, qu'est-ce qu'il a
Parce que du coup, je pense qu'il faut un petit peu expliquer. En fait, le fait qu'on fasse ce squat, ça a coïncidé avec l'ouverture d'une friche artistique par la ville de Reims. Comme ça se fait dans beaucoup de villes maintenant, c'est un grand espace où les artistes ils peuvent travailler, c'est la ville qui met ça à disposition. Et donc faut déposer un projet, et si la ville l'accepte, elle te donne, il y a un immense hangar à côté d'Orgeval où tu peux aller travailler tes projets là-bas quand t'es un artiste à Reims. Et donc nous on a un copain qui est batteur de free jazz, il a déposé un projet pour avoir un local là-bas pour travailler avec sa batterie. Puis il a travaillé pendant 2-3 mois, et puis au bout de 2-3 mois, il s'est rendu compte qu'il voulait essayer un truc avec un piano en plus de sa batterie, et il a pas eu le droit de l'emmener à la friche parce que c'était pas dans le projet qu'il avait déposé. Donc il nous a demandé s'il pouvait le faire à la maison, et comme nous on aime bien ce qu'il fait, on lui a dit qu'il y avait pas de problème, et donc il est venu jouer une première fois avec ce projet-là. Je pense qu'il a plutôt bien aimé jouer à la maison, et donc il est revenu avec d'autres copains à lui pour faire des impros jazz dans une petite salle du fond de la maison avec du parquet et plein de canapés, où c'est super sympa de faire des petits concerts qui font pas trop de bruit.
Oui, il faut préciser aussi que c'est des petites salles, quoi. Oui. Donc c'est pas la masse non plus. D'ailleurs, c'est pas ce que vous cherchez du tout. C'est plutôt la recherche de la convivialité, puis qu'il se passe un peu d'autres choses que dans les grands centres de consommation, tels que la cartonnerie, par exemple, pour ne pas la citer, hein, parce que ce sont des lieux où, à telle heure, il faut remballer, à telle heure, il y a les vigiles qui commencent à tourner, le bar se ferme, etc., etc., quoi. C'est vraiment des lieux où, anticulturels pour moi, enfin, c'est vraiment des lieux anti. Il y a quelque chose qui colle pas dans ces grands lieux, en fait, dans ces super structures, quoi, en fait.
Donc le côté humain.
Oui, oui.
Bah, c'est vrai que nous, parce que du coup, l'écluse, c'est pas tout le temps n'importe quoi, mais la seule limite qu'on s'impose, c'est elle est basée sur l'humain comme ça, en fait, comme on sait qu'on est là, que c'est une maison, on essaye de faire très attention avec les voisins, et c'est pour ça que ça se passe bien. Par exemple, il y a une salle en haut, pas super bien isolé phoniquement, dans laquelle on sait qu'on peut faire des concerts qui font pas trop de bruit, et il y a une salle en bas où on peut faire du bruit, donc on jongle avec ça selon les différentes choses qu'il y a à faire à la maison, et pour l'instant ça se passe bien, et donc ouais, on se retrouve pas dans des situations où les gens ils se sentent forcés, parce que les choses elles se font naturellement pour que tout se passe bien, et tout le monde agit dans l'intérêt de la maison pour pouvoir continuer à faire ce qui s'y passe, parce que ça intéresse tout le monde, que ce soit des copains qui y vivent, des copains qui passent juste faire des ateliers, des artistes qui voient là une opportunité de pouvoir faire les choses qu'ils peuvent pas faire ailleurs, ou même les voisins qui passent et qui s'intéressent au jardin, qui viennent pour les brocantes qu'on organise tous les premiers dimanches du mois, ou ce genre de choses, quoi.
D'accord, c'est ce que je voulais te demander, si vous en aviez déjà parlé de ça.
Ouais, on a un peu abordé les voisins, parce que dans ce qu'on propose, il y a la volonté de pas exclure les voisins, parce que comme on est au bord du canal, il y a beaucoup de gens qui promènent leurs chiens ou qui font du jogging, et il y a beaucoup de gens qui nous demandent si on est un truc de jeune, ou enfin, parce que on a tous entre 20 et 30 ans à la maison, et on est désolé. On a vraiment cette volonté de faire de ce centre social autogéré, de l'écluse, un lieu où la vie elle s'organise pour toutes les personnes qui ont envie de faire quelque chose, et donc ça commence un petit peu parce que, donc je disais, tous les premiers dimanches du mois on organise une brocante où les voisins sont conviés, que ce soit pour exposer ou pour ou juste pour passer, quoi. Et la dernière fois qu'on a organisé ça, sur le dimanche après-midi, il y a à peu près peut-être une centaine de personnes, dont une bonne moitié qui sont des gens qui sont descendus des HLM, qui sont en face de chez nous, ou alors qui viennent des maisons qui longent le canal juste à côté de chez nous, qui sont passés à la maison, qu'on en profitait pour manger un petit gâteau et visiter cette maison qui est là depuis des années, complètement fermée, et que la ville compte laisser fermer pendant encore 12 ans.
Ouais. Ça, c'était très positif, là, cette rencontre. Cool. Je crois que les gens étaient assez enthousiastes de vous rencontrer aussi.
Oui, de voir qu'ils pouvaient se placer des choses, et que leur quartier n'était pas condamné à mourir comme ce qu'il est voué à devenir pendant les années qui viennent. Il y a des voisins qui nous ont demandé d'organiser des choses à la maison et tout, et donc on va voir ce qu'on peut faire pour que l'écluse, ça devient vraiment le lieu où tout le monde puisse faire un peu ce qu'il a envie à Reims.
Et est-ce que ces gens du quartier viennent à vos assemblées générales le jeudi soir?
Ils sont conviés à chaque fois. Il y a, pour pas mentir, il doit y avoir 5-6 personnes qui sont déjà passées en réunion et qui font partie du quartier. Après, ils sont pas là en permanence. La plupart nous regardent d'un bon oeil, mais préfère garder ses distances, ils viennent pas au quartier, au quartier général, n'importe quoi, aux assemblées générales. mais par exemple, pendant l'atelier jardin, où la plupart des gens qui sont à la maison sont dans le jardin, nous on a un voisin avec lequel on s'entend très bien malgré des débuts un peu froids, et là ce week-end, il est venu nous présenter un de ses amis qui était chez lui pour le week-end. Donc on est toujours en discussion avec eux.
C'est ce qu'on appelle du lien social.
Ouais, voilà. Il y a vraiment plein de choses, comme on a un grand jardin à défricher, qu'on fait des feux tout le temps. On a des voisins qui nous refilent leur tas de bois parce que eux ils ont pas envie de faire de feu dans leur jardin. Enfin, Donc, ouais, il y a quand même une vraie implication. Après, bah, petite échelle, hein, mais ça fait que 3 mois qu'on est là, et puis ça fait toujours un peu peur, ce genre de choses.
C'est ça. Et là, mais là, il y a les échéances.
Ouais, l'échéance, c'est le 6 avril. On verra ce qui est décidé le 6 avril. Après, comme je le disais, même s'ils essayent de faire croire que non, nous, on maintient qu'on peut avoir la volonté de changer les choses et avoir des problèmes de logement. Donc, on a des copains qui ont des problèmes de logement et qui ont vu aussi dans cette maison énorme de 2 étages l'occasion de pouvoir se loger le temps qu'ils puissent trouver une autre solution. Donc, il y a de vrais problèmes de logement à l'écluse, et notre avocate a axé sur le fait qu'on avait la volonté d'organiser des choses, que ça, c'était une chose, mais qu'il y avait des gens qui n'étaient pas vraiment dans des situations où on peut les mettre à la rue du jour au lendemain. Donc, nous, on a demandé un délai. On a demandé un délai d'1 an. On ne sait pas ce qui va se passer. On verra bien le 6 avril.
D'accord. Donc, je crois qu'il faut donner le lieu, où c'est, parce que ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas.
Ce sera au tribunal d'instance de Reims, le vendredi 6 avril. Et donc, la juge, elle rendra juste son référé. Donc, après, il n'y a pas grand-chose. Je pense que nous, on fera une petite permanence. Enfin, on sera là devant pour les gens qui veulent savoir ce qui s'est passé. Mais parce que le juge... Il n'y aura pas de séance, c'est juste le juge qui dit la séance. En fait, elle s'est tenue au mois de mars, et il va juste au tout début donner le résultat du procès.
Et pour vous contacter, alors, comment fait-on?
Le plus simple, c'est de passer à la maison, vu qu'il y a toujours quelqu'un à la maison. Donc c'est aux 4 rue de la Cerisée, c'est à Reims, contrairement à ce que dit l'Union. C'est le long du canal, c'est dans le quartier de la Cerisée, c'est juste en face de la verrerie, juste à côté de l'écluse, d'où le nom. Et sinon, on a un site internet que j'ai déjà dit tout à l'heure, qui est www.écluse-reims.org, et sur lequel il y a tous les moyens de nous contacter. On utilise beaucoup un forum qui s'appelle Tic Tac Reims Attaque, où on peut retrouver beaucoup d'informations sur ce genre d'initiative à Reims. Et sinon, on a un mail qui est écluse@mailou.org.
Super. Bon, écoutez, à moins que vous ayez encore des choses à dire, je sais pas.
Non,
je crois ce qui est important, c'est le fait que ça soit collectif, quoi. Et le fait qu'il se passe des choses, tout simplement. C'est tellement rare, sur Reims.
Bah, on le sait.
Allez, on va faire une pause musicale.
Ne payez pas l'impôt, ne payez pas le train. Étaient parqués dans les HP, les maisons occupées, tout seul de la santé. Quand la réserve fut bondée, les Sioux ont débarqué, jetés dans la cité. La pression était trop montée, le couvercle a sauté, la marmite a pété. Sioux Apache et Cherokee sur la piste d'un tipi. Choisi pour passer l'hiver, de squatter la maison du général Kirchner. Avec leur air de vauriens, ils ont vite effrayé leurs contemporains. Les ronds de cuir réactionnaires, les vieux croutons. Les rondières ont fait rigoler les enfants, et la plupart du temps leurs jolies mamans ont fait pleurer les commerçants en disant « Moi indien, moi pas d'argent !» Sioux Apache et Cherokee sur la piste d'un tipi ont choisi pour passer l'hiver de squatter la maison du général Custer. Thank you. cavalerie, les tuniques bleues avec leurs gros fusils. Et les Indiens ont réfléchi, ont dit ne tirez pas, nous serons très gentils. Ils ont stimulé l'insertion en léchant bien le cul de tous les sociaux qui nourrit et logis gratuitement. Les Indiens sont blanchis et les cons sont marrants. Sur la page des Cherokees, sur la piste de l'intimité, ils ont choisi pour passer l'hiver de squatter la maison du général Chester.
Oui, alors la semaine dernière, on vous avait parlé d'une manifestation qui se déroulait ce samedi à Nantes contre l'aéroport, un aéroport qui est prévu depuis 40 ans, dont le projet est porté par le maire socialiste héros de Nantes, mais avec dans sa besace, c'est bien la droite, bien évidemment. Et puis aussi, on peut dire, mais ça, je vais vous le dire autrement, le PS, puisque les Verts, puisque les Verts dans ce truc-là, il y a eu louvoie, c'est-à-dire que ils sont contre ce projet soi-disant d'aéroport, mais quand ils négocient leur poste prochain pour le pouvoir politique, eh bien évidemment, ils s'assoient dessus. Alors, il y a eu cette manifestation qui a été importante, puisqu'il y avait déjà 200 tracteurs, plus de 200 tracteurs, ce qui fait que la population locale directement concernée par ces terres qui vont disparaître s'était fortement mobilisée. La manifestation était importante, mais finalement, au niveau de la ville de Nantes, elle a eu du mal encore. Ils ont encore du mal à mobiliser les urbains, hein, c'est qu'à le dire, puisque la majorité des gens étaient soit des militants de l'extérieur, hein, du coin, étaient soit des militants, soit des gens qui sont directement concernés par ce projet. Néanmoins, il y avait près de 10 000 personnes, c'est quand même beaucoup tout de même. D'un autre côté, Nantes a connu des manifestations sociales de plusieurs dizaines de milliers. On n'en est pas là, mais ça va peut-être venir. Et là, je crois que ce soir, malheureusement, on peut pas les avoir puisqu'ils sont en réunion. Donc, ils font leur bilan, le bilan de ce qu'ils ont fait là. Ça a été très positif d'après pour eux. Ils doivent d'ailleurs revenir et ça leur donne la pêche par rapport à l'isolement qu'ils ont vécu bien souvent. Et je vais vous lire là la déclaration d'une femme qui représentait les comités locaux, vraiment locaux, hein, pas de ville, hein, du coin, des gens qui vont se faire exproprier. Je vais vous lire donc une partie de son discours. C'est tout de même très chouette et c'est même très très étonnant au niveau politique, vous allez voir. Amis d'ici et d'ailleurs, ce qui se joue à Notre-Dame-des-Landes n'est pas une simple affaire politique. Elle est humaine. Elle part de notre avenir commun sur cette terre. Elle est le choix entre une vie digne d'être vécue et la mort. On peut très facilement être mort et se lever pourtant le matin pour aller au travail. Des millions de gens malheureux en font l'expérience. La destruction ici projetée vise un petit morceau de la France planté à un jet de pierre de Nantes, fief d'un grand féodal socialiste, Jean-Marc Ayrault. Comment est-il possible d'être si lâche? Comment peut-on s'asseoir sur tant de proclamations, sur tant de phrases creuses prononcées depuis 20 ans par cette gauche bien élevée au nom du soi-disant développement durable? Jean-Marc Ayrault ne pense pas, il règne, incurable défenseur des intérêts industriels, comme son maître candidat François Hollande, et ce grand seigneur d'opérette sait reconnaître la puissance quand il la croise. Certes, c'est l'État qui a donné le chantier de Notre-Dame-des-Landes à l'entreprise Vinci. Mais il n'y a pas l'épaisseur d'un papier à cigarette entre le maire de Nantes et celui qui, au nom de tous, pousse à la construction, c'est-à-dire François Fillon, Premier ministre en titre. Les socialistes ne sont pas les seuls en cause, et nous n'oublierons pas de sitôt leurs complices. Nous voulons parler de ces écologistes de salon, toujours prêts à vendre leurs pauvres âmes tremblotantes en échange de quelques places. Comment osent-ils les Duflos, Maniennes de Russie, qui sont pourtant venus chez nous clamer leur position au nouvel aéroport? Comment osent-ils, après nous avoir tant promis, capituler en rase campagne autour d'une table de Monopoly? Imaginez comment une telle trahison a été accueillie à l'époque du Larzac en 1972, voire quelques 40 ans. Imaginez comment auraient été reçus les écologistes d'alors, pactisant avec l'armée dans le dos des paysans. En réalité, ces gens de droite et de gauche ne connaissent que la puissance et la puissance de l'argent. Pour l'eau, voyez Veolia ou Suez. Pour l'énergie, EDF ou Areva. Pour le bâtiment travaux publics, voyez Bouygues, Vinci. Ces trois derniers connaissent toutes les chansons du répertoire. Tout le monde ici comprend ce qu'il veut être dit. Parlons de Vinci, qui a vertueusement triomphé dans l'appel d'offres pour Notre-Dame-des-Landes. Ensuite, elle va parler de l'entreprise Vinci, qui sévit dans le monde, en particulier, y compris en Russie, puisque c'est le concessionnaire d'un projet d'autoroute qui va relier Moscou à Saint-Pétersbourg. Et là-bas, ça se passe très mal, puisqu'il y a un opposant qui a été grièvement blessé à coups de batte de baseball. Bien sûr, Vinci n'est pour rien, ils ont rapporté simplement le projet. Ensuite, son discours se termine. Un politicien du passé, héros, veut nous lancer dans une aventure stupide, morbide, pour faire décoller des avions qui ne décolleront pas. Il entend faire disparaître 2000 hectares d'une terre miraculeusement préservée, où les animaux et les hommes qui la peuplent ne demandent rien à personne. En défendant un mode de vie criminel qui permet à une infime minorité d'utiliser un engin destructeur du climat, nous ne pouvons lui pardonner. Nous ne parlerons pas, si aujourd'hui ni demain, ni jamais à tous ceux qui osent soutenir de près ou de loin cette terrible agression contre la beauté de la vie. En entendant la victoire que nous espérons de toutes nos forces, nous pleurons un endroit qui pourrait disparaître. Si les machines finissent par gagner à la partie, les larmes de crocodile couleront à flot. Il est si bon de pleurer sur le sort des Indiens de l'Amazonie. Les bonnes consciences n'hésitent jamais à donner de la voix pour faire croire qu'elles pensent aux autres. Mais nous, nous refusons leur sainte pitié. Nous réclamons la solidarité. Nous appelons au combat. Nous voulons vivre ici. Le soutien de nos compagnons de lutte venus de tout horizon nous demande la force de nous battre. Qu'il en soit ici remercié. La bataille continue. Nous ne pouvons pas la perdre, seulement il faut se lever, et pas à moitié. Il faut s'unir et sortir nos étendards. Il faut empêcher la construction de cet aéroport de la mort. Voilà, donc c'était une déclaration, une partie de la déclaration, du comité qui est là-bas, sur place, et qui est en réunion à cette heure-ci. C'est pour ça qu'on n'a pas pu le joindre.
Alors, un petit rappel, c'est qu'il existe déjà un aéroport qui se trouve entre Nantes et Rennes, mais les décideurs ont depuis, ça fait une cinquantaine d'années.
Une quarantaine.
40, 35 ans. Donc ils ont ça dans la tête, qu'on va avoir un développement exponentiel du transport aérien, et donc cet aéroport existant
serait saturé. Ce qui n'est pas vrai aujourd'hui. Et bon, qui vraisemblablement ne le sera pas demain ni après-demain. Donc voilà, c'est très bien dit de ce que dit cette femme, ce projet, c'est comme tous les projets qu'on a pu dénoncer et qu'on dénoncera, que ce soit bien sûr les projets de TGV en Italie, en France, en Espagne, au Pays Basque, que ce soit des tas d'autres choses qui ont lieu, comme un aéroport, il y en a un autre aéroport qui suscite en Allemagne, à Stuttgart je crois.
C'est pas un aéroport, je veux dire. Toi.
C'est pas un aéroport.
Non, c'est une gare.
C'est une gare, oui. Bon.
Oui. Alors, ce que je voulais rajouter, c'est que Nantes, à quoi elle doit sa richesse? C'était
à l'esclavage.
Donc là, ils veulent se reconvertir avec l'aéroport et théoriquement, il y avait une inauguration d'un mémorial de l'esclavage qui aura lieu samedi devant les manifestations. Ils ont reporté ça hier, ils ont déplacé. Donc là, on nous fait tout un beau truc sur l'esclavage et ses conséquences, mais bon, on est en train de refaire la même chose avec des projets criminels. Voilà.
Vous avez des choses à ajouter par rapport à ça, ou on fait une pause musicale et on va pouvoir peut-être après parler d'autre chose?
Oui, on peut parler d'une manif qui a eu lieu hier dans la région, qui est pas loin, c'est à Rozoy-Belval. C'est Rozoy-Belval, c'est entre Château-Thierry et Dormans, pour ceux qui ne savent pas. Ouais. Et donc où il y a un projet d'exploitation d'huile de schiste. Voilà, et donc
c'est plus le gaz, non, c'est l'huile.
Alors c'est en, eux c'est encore de l'huile. Alors c'est ce qu'ils appellent le pétrole normal. Voilà, donc il y a un projet de concession, les travaux de prospection doivent commencer bientôt. Alors donc c'est dans toute cette zone là autour de Château-Thierry, Dormans, il y a plusieurs projets qui sont en cours. Il y en a aussi du côté de Chalon, Visqueville-François, etc. Donc les gens hier ont fait une manifestation pour dire stop. Ils étaient à peu près 400. C'était une petite manif convoquée uniquement par les gens du coin sur le site où il devrait y avoir les prospections. Apparemment, il va y avoir d'autres plus grosses manifestations. Voilà, puisque soi-disant il y avait, on arrêtait les prospections d'huile de schiste, parce que c'est ça. À un moment, c'était l'huile de schiste. Alors pour avoir l'huile de schiste, on est obligé de faire utiliser très gourmand en eau. Donc il fallait utiliser plein d'eau. Donc il y a pour l'instant, ça s'est arrêté. Mais les sociétés qui ont demandé à faire de la prospection, on dit on va pas utiliser ce mode par fractionnement. On va utiliser le procédé classique. Et donc ils essayent à tout prix
d'aller chercher l'huile. On va chercher le pétrole. D'ailleurs, c'est très proche.
Non, mais c'est du pétrole. C'est du pétrole, hein. Ce qu'ils appellent l'huile de schiste, c'est du pétrole. Effectivement, le gaz de schiste, c'est autre chose. Bon, voilà. Mais de toute façon, à partir du moment où il y a un arrêt théoriquement sur les prospections par fractionnement, les sociétés qui ont obtenu des concessions et des droits de prospection, ils disent pour l'instant, ça sera une prospection classique qui est théoriquement une utilisation en forant des puits. Bon, on ne sait pas d'ici quelques années ce que ça va donner, quoi.
Tout à fait, parce que je pense que de l'huile de schiste, il ne va pas y en avoir des tonnes. Faut rappeler que dans la région, d'ailleurs, il y a des puits de pétrole. Hein. Quand on s'approche de Paris, une cinquantaine de kilomètres de Paris, de l'autre côté, il y a des puits de pétrole depuis très longtemps. Hein. Alors, je ne sais pas ce qui est extrait de ces puits. Ça va être plus ou moins...
Il y en a quelques-uns qui ont un rendement qui peut être... qui peut être intéressant pour d'autres. Il y en a qui sont pour l'instant arrêtés, qui doivent recommencer, ils doivent remettre en marche. En fait, ça coûte très cher d'aller extraire, mais plus le pétrole monte, plus c'est intéressant, plus on peut faire aller prospecter plus bas, même si ça leur coûte plus cher. Voilà.
Ouais, actuellement, le pétrole monte, c'est ma conclusion.
Voilà. Pourquoi il y a une demande. En gros, ça doit faire, la production française, ça doit faire moins de 2%
de la consommation.
La consommation nationale.
C'est ça. Alors, le gaz de schiste, je ne sais pas si tu peux en parler, parce que ça n'a rien à voir, hein, c'est du gaz qu'on va chercher.
Je ne sais pas, parce que justement, là, on essaie, apparemment, ils essayent de noyer le poisson en faisant une différenciation entre huile de schiste, gaz de schiste, etc. Pour l'instant, on ne sait pas grand-chose de ce qu'ils mettent derrière le vocable gaz de schiste. Ça peut être la même chose, simplement, on change. Et en disant, si je veux extraire du gaz de schiste, j'ai pas besoin de faire de fractionnement.
Si, je pense que de toute façon, le gaz pour le faire échapper, il n'y a pas 36 solutions.
Ils ont d'autres moyens, apparemment, c'est pour ça, il faut qu'on sache clairement ce qu'ils mettent derrière les mots, quoi. Voilà, on va faire une pause musicale.
Ouais.
Plus affligeant
est un animal comprenant des êtres à corps mou, souvent recouvert d'une petite calcaire, et dont certains se déplacent grâce à leurs pieds musclés. Qu'est-ce qui enterre donc les gens au lieu de les faire bouger? Qu'est-ce qui les fait s'asseoir devant leur cage d'escalier? Sommes-nous des coquilles vides? Ou laissons-nous des traces humides? Sommes-nous des coquilles vides?
Brièvement, je voulais vous parler d'un article, un super article qui est paru dans le journal CQFD, dans la rubrique Colonialisme atomique. Il s'agit de La Rêve Afrique. En fait, c'est l'interview de Raphaël Granvaux, par CQFD, donc, sur son bouquin, c'est Areva en Afrique, une face cachée du nucléaire français, et c'est aux éditions Agone. Alors, brièvement, ce qui est abordé là-dedans, dans cet ouvrage, au Niger, les sols, les nappes phréatiques et l'air sont pollués autour des villes minières, et les travailleurs, comme les populations, lentement mais sûrement contaminés. Face à cette situation, Areva se contente de nier tout lien entre la radioactivité et les pathologies nombreuses dont souffrent et décèdent les anciens mineurs, ou rejette simplement la responsabilité sur ses filiales. Alors voilà, c'est un travail qu'a fait Raphaël Granvaux, un ouvrage qu'on va se procurer rapidement et sur lequel on manquera pas de revenir précisément et dans le détail, quoi. Voilà. Les éditions Agone.
Agone à Marseille, donc je pense que vous pouvez sur internet trouver sans problème. Hein. Agone, c'est très connu. Voilà, ça s'appelle l'Areva Afrique.
Allez, vous avez encore une minute.
Ah, bon. Il y a d'autres bouquins qui sont à lire, je crois. Bon, je ne sais pas si. Non, bon, on n'a rien prévu en fait. Bon, allez, on va se quitter, c'est bon.
Les exploités, les dominés, les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les maltenus. Seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce. De la rationalité du capital, la globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout, on ne la considère pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants, le vampire. Il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Moi, je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions. et vous retirez sur le côté gentiment, monsieur, comme ça il n'y aura pas de violence,
en tout cas
pas de
inconvénient, j'attends les ordres.
Allez, c'était donc Grégor, une parole anarchiste communiste, chaque semaine sur l'écho des Grégor Montpellier, Canal Sud à Toulouse et Radio Primitive sur Reims, mais aussi sur Internet à OC Libertaire et aussi sur le chat noir 51.